entendre votre voix et exprimer votre opinion et que la radio Okapi vous en donne la possibilité. Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Retrouvez Pierrot et la Meji et toute son équipe dans Parole aux auditeurs.
Voilà, dans Okapi Service, nous parlons du traitement du riz après la récolte. Vous savez, après la récolte, le riz subit une série de transformations avant de finir sa course dans la marmite de la ménagère. Et la destination finale, c'est le ventre, bien entendu. Mais après la moisson, on sèche les grains au soleil, puis on procède au battage. Ce sont là, quelques étapes de ce processus, mais on aura des précisions avec notre invité. Comment doit-on procéder afin d'obtenir un riz de meilleure qualité après la moisson? Dieu donne un mot.
Et effectivement, et après la récolte, il y a la mise en gerbe de panicules qu'on a récoltées au champ. Et ces gerbes de panicules sont ramenées en dehors du champ où on va battre pour avoir le riz grain en pagaille. Et de là, on va amener ce
même. On va battre à l'aide des coins.
Et pour les gens qui n'ont pas, qui se limitent encore à des méthodes rudimentaires, ils le font avec de petits fûts. Hein. On prend un grand fût, on le divise en deux, on a deux morceaux. On va battre le riz dans ces fûts-là, tout en étalant en dessous de ces fûts une bâche pour que le riz qui tombe, qui n'entre pas dans les petits fûts, qui tombe sur terre, soit récolté et soit récupéré dans le bâche.
Mais je ne comprends pas exactement comment. Vous avez un fût que vous sectionnez en deux parties.
En deux.
Et vous mettez une partie de l'autre côté.
Toutes les deux parties peuvent être utilisées. Si vous avez deux ou trois personnes qui battent, vous pouvez utiliser tous les deux morceaux de fût au même moment. Et quand on va battre, on a le riz.
Oui, ça se fait comment? Vous amenez les
gerbes.
Les gerbes, vous remplissez.
Vous tapez. Vous avez un morceau de bois.
Oui.
Un morceau de bois. C'est superposé sur les tonneaux.
Okay.
Et vous battez et le riz tombe dans le fût là. Et il y a de riz aussi qui ne tombe pas dans le fût mais qui sont récupérés dans la bâche qui est en dessous du morceau de fût. Et après on va rassembler tous les riz là, on le met maintenant dans un sac. Et dans ce sac là,
ça c'est un travail fastidieux.
Il est fastidieux. Tout comme il y a aussi une machine qu'on appelle la batteuse. Et là vous amenez tout un tas en grande quantité, vous plongez dans la machine, la machine sépare la paille du riz, parce que, vous voyez, le riz est en panicule, et le reste de la plante, nous appelons ça paille, et quand vous récupérez le grain, qui sont en paillis, le reste, c'est ça la paille, et la machine distingue directement, tandis que la méthode rudimentaire là, c'est vous-même qui tenez la paille en main, vous battez, et le riz tombe dans le fût, et puis c'est comme en dehors du fût, et sur la bâche. Après, vous récupérez. Dès que vous avez ça, c'est encore au niveau du champ. Vous mettez dans le sac. Il y a le transport qui intervient. Vous transportez vers l'endroit où vous allez sécher. Parce que si vous gardez le riz pendant plus d'une journée dans le sac, il risque de germer. Parce qu'il est encore frais. Quand il germe, et là, vous n'avez pas les bons riz. Et vous l'amenez aussitôt que vous avez amené là où vous allez les sécher, vous les sortez du sac. Vous l'étalez, et au bout de 3 jours, vous avez le riz sec, que vous allez maintenant à ce niveau-là, essayer de séparer le déchet du vrai paddy, c'est-à-dire on appelle ça vannage. Et tant c'est manuel.
Mais comment vous séchez le riz pendant 3 jours?
Pendant 3 jours, on l'étale
au soleil.
Au soleil et en diminuant la couche, l'épaisseur de la couche. Parce que si l'épaisseur est grande, vous voyez que le riz ne va pas bien sécher. Il faut diminuer l'épaisseur, que l'épaisseur soit petite.
Mais comment vous allez diminuer?
C'est-à-dire, vous l'étalez, vous allongez la surface sur laquelle vous allez mettre le riz. Il ne faut pas le mettre dans une petite surface. Vous devez avoir une
surface. Pour créer de l'espace.
Voilà. Et puis, vous l'étalez vraiment. Vous l'étalez vraiment. Et comme ça, quand le soleil tape, il trouve la petite épaisseur. Vous voyez que le soleil touche tous les grains, tous les grains de riz. À ce moment-là, au bout de ces 72 heures, vous pouvez avoir votre riz bien séché et vous allez séparer maintenant de la saleté du vrai paddy. Et vous avez maintenant un poids que vous pouvez peser pour amener maintenant ce riz-là.
Le paddy, c'est en fait l'enveloppe qui recouvre.
C'est le riz avec son enveloppe.
Ouais.
Le riz avec l'enveloppe, c'est ce qu'on appelle
paddy. Avec son habit, quoi.
Oui, son habit.
Oui.
C'est ça, c'est qu'on appelle paddy. Et maintenant, ce paddy-là, quand il est séché, vous pouvez le peser. Cette fois-là, c'est parce que vous allez l'amener à la machine qu'on appelle décortiqueuse.
Et quand la machine va déshabiller.
Oui, il va déshabiller, il va séparer
oui.
le riz blanc décortiqué. Mm-hmm. Peut-être ça peut être même le riz cargo.
Oui.
Parce qu'il y a encore une autre sorte qu'on appelle le riz cargo. C'est le riz qui n'est pas encore tellement propre, qui n'est pas bien blanchi.
Mm-hmm.
On appelle ça riz cargo. Et donc, au même moment, on peut amener à faire le riz propre du coup. Hein? Du coup, vous avez le riz propre. Et maintenant, le reste là, de l'enveloppe,
mm-hmm,
que nous appelons... les déchets peuvent être utilisés dans le champ comme engrais.
Hein? Est-ce qu'on peut consommer le riz avec cette enveloppe là ou cet habit là?
Non.
Vous l'appelez pas dit.
Non. Quand vous l'avez même dans l'assiette, vous sentez c'est comme si vous avez un corps étranger.
Oui.
Ouais, vous avez un corps étranger dans le plat.
Mmh.
C'est ça.
Donc il faut les sécher. Il y a une autre opération, on parle de l'étuvage. Qu'est-ce que cela veut dire?
Non, l'étuvage c'est un chauffage. Hein? C'est un chauffage, ça c'est au laboratoire. Hein? Vous l'amenez dans l'étuvage, c'est-à-dire vous chauffez. Ça, vous voulez avoir autre chose que le riz blanc.
Vous voulez avoir quoi par exemple?
Non, c'est-à-dire ça c'est une étude du laboratoire.
Laboratoire,
oui, ouais. Une étude du laboratoire qui n'est pas liée à l'usinage du riz. Ça c'est quand on vous donne notre travail, par exemple un travail chimique, hein, là, vous pouvez amener dans les étuves.
Ok, pour les recherches bien entendu.
Oui.
Alors donc l'agriculteur qui amène son riz, vous l'étalez pendant 3 jours au soleil, après vous l'amenez à la machine qui va séparer le riz du paddy, et puis vous récupérez les grains.
Oui.
Mais il y a parfois des grains, les grains de riz qui jaunissent. Pourquoi? Ça change de couleur.
Attention, là c'est notre problème et notre aspect de choses.
Mm-hmm.
Et ça peut être le riz qui a été attaqué par une maladie. Vous voyez, il y a par exemple la purculariose. Quand la purculariose attaque au champ,
mm-hmm,
et quand il est cette purculariose plutôt et attaque et le feuille et le grain, deux fois quand on amène ce riz là à la machine, vous pouvez remarquer certaines taches sur le grain de riz.
Mm-hmm. Hein,
là c'est une pathologie. C'est une pathologie. Le riz a toujours la couleur blanche. La couleur du riz est toujours blanche.
Elle est toujours blanche. Ouais. C'est vrai. À une époque ici à Kinshasa, oui, allez-y.
Je m'excuse beaucoup. Et pour avoir de grains entiers de riz, après le séchage, il est déconseillé de ne plus amener le riz juste quand on l'enlève de l'air de séchage. On appelle air de séchage l'espace sur lequel on expose le riz. Mmh. On appelle ça air de séchage. Alors, pour éviter que le grain ne puisse pas se disséquer, ne puisse pas être en petite partie, en morceaux disons, on attend au moins une heure après le séchage. Donc le riz a été séché, vous l'avez maintenant rassemblé pour l'amener à la machine, ne l'amenez pas aussitôt que vous l'avez enlevé de l'air de séchage. Il faut attendre au moins une heure à deux, tout au plus, pour que ça se refroidisse un tout petit peu. Quand vous l'enlevez au soleil, surtout que si le soleil est au zénith, vous l'enlevez, vous sentez que le riz est tellement chaud. Et quand vous l'amenez dans la machine, et vous risquez d'avoir des cassures. Alors pour avoir le riz entier, il faut attendre un moment au frais. Quand je dis au frais, ce n'est pas dans un réfrigérateur.
Vous mettez dans des sacs, disons.
Oui, dans l'ombre.
Sous l'ombre.
Oui, sous l'ombre. Et après un moment, vous l'amenez à la machine. Là, vous aurez le grain entier.
Le grain. Ouais. Mais certains parlent des riz longs, des riz, je ne sais pas où se trouve la différence.
Ce sont des variétés.
Oui.
Par exemple, pour notre cas, ici chez nous,
mm-hmm,
le riz Bumba n'est pas long. Il y a un riz qu'on appelle riz Bumba, qui vient de l'Équateur.
De l'Équateur, oui.
Ce riz-là n'est pas long. Au contraire, il est un peu gonflé. Mais nous avons d'autres...
L'osso à Bumba, les gens en parlaient. L'osso à Bumba, oui.
C'est ça. Il y a une autre variété que nous avons ici, par exemple la Sipi. C'est une variété.
Mm-hmm.
Quand vous respectez les conditions de séchage, il sort en long grain. Nous avons aussi la Jasmine, qui est une variété mise en place par nous. Nous, c'est-à-dire, c'est les services, le programme national des riz, en collaboration avec Senasem, qui est le patron de la validation des semences.
Mm-hmm.
Et ces variétés-là vous donnent le riz que vous pouvez appeler l'engrais. Donc il y a Sipi, il y a Jasmine, donc c'est toute une panoplie, une panoplie de variétés.
Et également le riz qui provient des pays d'Asie, hein, le riz de la Chine, tout ça qui inonde aussi le marché.
Oui.
Et c'est différent des semences que nous avons ici.
Notre riz d'ici, c'est un riz presque biologique. Comprenez,
c'est
le riz parce qu'on n'utilise pas les engrais comme tel. Et en plus de ça, c'est le riz produit et consommé. Pendant qu'on le récolte, on peut le consommer. Tandis que le riz qui nous vient de l'extérieur, ça prend du temps.
Non, le riz peut être consommé après la récolte.
Après la récolte, dès que vous avez récolté, vous l'avez séché, vous pouvez le consommer dans une semaine. C'est différent avec le riz importé qui prend du temps.
Qui prend du temps, oui.
Ça peut prendre une année avant que ça ne vienne, mais ça, c'est vraiment le riz frais.
Voilà, c'est le riz frais. Des questions, des réactions, composez le 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Ingénieur Dieu de Nembo, vous êtes suivi partout à travers le pays et les auditeurs appellent dans cette émission pour poser des questions. Nous avons par exemple Bruno en ligne depuis, il est à Kinshasa, bonjour.
Ah bonjour monsieur, bonjour. Journaliste, moi j'ai 40 hectares à Angeline Brasserie où je cultive le riz. Oui. Bon maintenant comment est-ce que je peux traiter le riz d'une manière professionnelle? Donc c'est-à-dire que je vais avoir le riz parfumé comme c'est qu'on vend au supermarché, comment est-ce que je peux procéder?
Ouais, monsieur, j'ai bien compris votre question. Ces questions, il y a eu deux variétés qui donnent le riz parfumé. Ce n'est pas qu'on traite, mais il y a deux variétés. Je peux te donner un exemple d'une variété qui est déjà utilisée il y a plusieurs années. C'est la jasmine. La jasmine, c'est la variété du riz parfumé. Quand vous l'avez, et vous n'aurez pas traité parce que c'est une caractéristique liée à cette variété-là, la jasmine. Et puis, pour le moment, nous avons une autre variété que nous allons mettre en diffusion, mais qui n'est pas encore cataloguée, c'est l'Enerica 59. Il a les mêmes qualités que la jasmine, mais elle a cette différence que au niveau de rendement, l'Enerica va donner plus que la jasmine actuellement.
Donc le riz parfumé, c'est quel type de riz
C'est le riz quand on le prépare, vous sentez un parfum. Il y a un parfum qui c'est le riz qu'on appelle le riz de patron. Et quand vous l'avez, il a même un autre prix différent des autres variétés de riz.
Ça dégage un parfum.
Oui, quand on le prépare à la cuisson, tout le monde qui se trouve tout autour sent l'odeur de quelque chose. Il peut même poser la question, mais c'est quoi ça qu'on prépare? Mais c'est le riz, c'est la jasmine.
Alors, donc lui, Bruno, vous voulez savoir où trouver cette variété, hein? Vous pouvez l'indiquer, hein? Où est-ce qu'il peut aller pour trouver cette variété de riz?
Cette variété est déjà diffusée dans plusieurs points. D'ailleurs, nous voulons même qu'elle soit remplacée par l'Enerica dont je viens de vous parler, l'Enerica 59. Si vous allez au Poule Malébo, là, il y a des paysans qui nous encadrons, nous, en tant que structure de l'État. Ils ont ça. Si vous allez au PNR, quand vous êtes en du brasserie, vous êtes non loin de là où nous trouvons installés, au PNR Njili. Penerinji, quartier 7, à côté des Chinois. Hein? Si vous arrivez là-bas, vous posez la question à la division technique, nous pouvons vous aider à trouver cette variété. J'espère que vous connaissez qu'à l'hectare, c'est au moins 60 kilos. Quand le riz est bien vanné, c'est 50 kilos à l'hectare de semences.
Voilà, des questions de réaction, appelez-nous, le vannage, qu'est-ce que cela veut dire?
Le vannage, c'est une opération qui consiste à séparer le paddy du déchet. Parce que quand on récolte le riz, après l'ébattage, là, il y a un peu de morceaux de paille qui se mélangent au paddy. Et puis, il y a aussi le riz, des graines qui ont avorté, qui n'ont pas pu porter de graines, qui, lorsque le riz va sécher, et en vannant, c'est-à-dire, vous faites un mouvement, soit on peut le faire avec un balai, soit on peut avoir un dispositif là qu'on appelle pour vanner quoi. Il y a des histoires que nos femmes utilisent, les noms m'échappent.
Mouyungulu,
vous vannez, vous verrez que le riz plein ira d'un côté et les déchets vont rester de l'autre côté. Vous débarrassez le vrai paddy de faux paddy quoi, mélangé avec la paille, et vous restez avec le vrai riz, le vrai paddy que vous allez amener à la machine pour le décortiquage. Ceux qui n'ont pas de machine peuvent amener le même riz là dans le mortier, comme on fait au village.
Oui.
Dans le mortier, on va piler, mais là vous aurez beaucoup de brisures. Oui. Vous aurez beaucoup de brisures que la personne qui utilise la vanneuse.
Voilà, c'est vraiment intéressant d'obtenir le riz de qualité, la jasmine. Mais il y a plusieurs variétés, au moins combien de variétés?
Oh, il y en a plusieurs. Il y en a d'autres même qui sont hors d'usage. Il y en a plusieurs. Les variétés que nous utilisons actuellement, nous avons la jasmine, nous avons
l'Enerica 59.
L'Enerica 7, ça ce n'est pas encore en diffusion, mais bientôt on va diffuser cette année.
Oui.
Il y a la jasmine, il y a Sipi, nous avons l'Ubei qui est une variété que les Chinois ont mis au point. Et puis nous avons Prerp, nous avons c'est plusieurs variétés.
Voilà, mais dans quelle partie du pays la culture des riz est beaucoup plus pratiquée aujourd'hui?
concernant toute la République,
oui, toute la République, bien sûr.
Il y a des endroits, par exemple, comme à l'Est. Vous savez, à l'Est, c'est le riz est considéré comme l'aliment de base.
C'est même en Kataï. Hein,
donc, j'ai dit d'abord.
D'abord à l'Est.
À l'Est, oui. Ici à Kinshasa également, le riz est beaucoup plus consommé dans, dans beaucoup de ménages. Mm. Et au Kataï, ça se vrai aussi. Donc, par exemple, à Lodja, il y a même une station de plein air pour aider les paysans à pouvoir bien produire le riz. Mm. Il y a le Chaba, on consomme aussi le riz en grande partie. Mm. Et nous avons aussi l'Équateur. Vous voyez, je vous ai parlé ici du riz Bumba. Ça vient de l'Équateur. Et c'est qu'eux aussi en consomment normalement. Mm. C'est ça.
Est-ce que le riz Bumba est toujours en produit jusqu'à aujourd'hui?
Si, ils amènent ça chez nous ici, nous les aidons à décortiquer. Ils amènent leur riz, leur paddy, ici, à Kinshasa, au plein air, où il y a des décortiqueuses. Nous les aidons à pouvoir décortiquer et avoir le riz blanc.
Mm. Mais à l'époque, on parlait de l'os à Ghana. C'était quoi? Quelle était la particularité de ce riz?
Le riz Ghana, oui. C'est comme aujourd'hui nous appelons l'engrain, c'est thaïlandais, donc c'est le riz qui venait du Ghana, du produit Ghana. Au Ghana. C'est comme notre riz. Quand nous l'exportons, on peut aussi l'appeler le riz du Congo, de la RDC plutôt, parce que le Congo on peut confondre avec Congo-Brazzaville. Oui. On dirait le riz de Congo-Kinshasa.
Voilà, M. Kodele, c'est M. ou Mme Angela
Kodele,
monsieur. Voilà, M. Kodele nous appelle depuis Siro, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour l'invité, bonjour tous les auditeurs de Radio Okapi. Bon, ma préoccupation est la suivante, je sais que les agronomes sont en train d'encadrer les agriculteurs en matière de riz et consorts. Quelle est la procédure qu'ils doivent utiliser? Parce que des fois nous remarquons que les riz, du moins les paddy qu'on récolte et qu'on passe au niveau des rizeries, il y a beaucoup de cailloux pendant la consommation. Première question, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait requis de beaucoup de cailloux à travers les riz blancs? Deuxième préoccupation, je crois que je pourrais aussi vulgariser cela auprès de nos riziers ou des gens qui utilisent des riz. Bon, nous remarquons souvent chez nous à Isiro, dès que les riz vient d'être séché directement, on passe à la rizerie. Bon, je crois que pour ceux-là qui nous écoutent au niveau d'ici, il faut attendre une heure ou deux heures avant de mettre ça dans la rizerie afin que les riz ne soient pas trop cassés. Je vous remercie.
Merci, M. Kodele.
Merci beaucoup. Si vous faites, vous allez dire ça à vos riziculteurs, vous nous serez vraiment très utile dans la diffusion de nouvelles techniques de culture de riz. Et surtout au niveau du séchage et de l'usinage. Bon, pour la question des cailloux, vous voyez que le champ, quand vous récoltez votre riz au champ, le riz n'est pas mélangé au caillou. S'il est mélangé au caillou, c'est au niveau de l'aire de séchage. Si vous n'avez pas une aire de séchage bien faite, vous n'aurez pas le riz de bonne qualité parce que les cailloux, vous les aurez. Mmh. Alors, il faut faire une aire de séchage en béton. On bétonne en ciment et avant de d'étaler le riz, vous balayez avec un balai, soit avec une brosse, les balais durs de qu'on appelle les balais de rue là, ou avec nos balais traditionnels. Vous balayez, vous rendez compte que évidemment vous avez enlevé tous les cailloux. Vous êtes resté seulement avec votre béton en ciment. À ce moment-là, vous étalez votre riz. Et quand vous l'étalez, le moment venu quand vous allez encore le récupérer pour le ramener encore demain sur la même aire de séchage, vous répétez encore la même opération de vous débarrasser des cailloux. Et comme ça, vous aurez un bon riz.
Parce qu'il y a souvent, vous mangez, et puis, on a du banga, tout ça, c'est désagréable.
Oui, c'est le problème d'entretien de l'air de séchage.
Oui. Voilà, Guillaume nous appelle depuis Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
J'ai trois petites préoccupations. Il a dit que le Erika, c'est à peu près 50 kilos à l'hectare pour la semence. Je voulais avoir première question, quel est le taux de rentabilité à l'hectare justement quand on a mis 50 kilos, quelle est la récolte attendue? Deuxièmement, est-ce que la récolte produite peut être servie, peut être utilisée comme semence également? Donc est-ce que ce ne sont pas des semences stériles? Troisièmement, est-ce qu'il y a-t-il une maladie particulière contre laquelle on devrait se protéger, soit contre le jasmin, soit contre la nouvelle variété, le Nerica, dont il a parlé?
Merci beaucoup pour ces trois questions. je commence par la première. Vous dites, je vous ai dit ici que avec 50 kilos de riz bien vanné, vous pouvez faire un hectare. Avec 60 kilos de riz qui n'est pas bien vanné, hein, vous pouvez faire un hectare aussi. Écoutez, pour la production, ça dépend des conditions du sol. Ok? Et puis nous avons deux variétés de riz. Il y a le riz de montagne, qu'on appelle riz pluvial, et le riz de bas fond, qui est le riz irrigué. Là, on a la maîtrise des eaux. Et le riz, le rendement de riz irrigué est différent du rendement de riz de montagne. Et par exemple, je prends un exemple pour la ville de Kinshasa. Pour les poules malébo, si vous connaissez bien la ville de Kinshasa, le poule malébo commence de Kingabwa et ça va jusqu'à tout près d'un scellé. Et là, ceux qui font, par exemple pour Kingabwa, qui font le riz de bas fond, avec 50 kilos pour un hectare, ils ont facilement 3 tonnes et demie à l'hectare. Et ceux qui font le riz de montagne, hein, avec, parce que je m'en vais vous donner un exemple. La jasmine n'est pas un riz un riz pluvial de montagne, c'est le riz de bas fond. Et le riz de montagne, vous avez l'IRAD 112 et vous avez aussi le NERICA 7. Et avec l'IRAD 112, quand vous le faites en montagne, vous ne pouvez pas avoir 3 tonnes. Vous aurez moins de 3 tonnes. Vous pouvez aller même jusqu'à 2 tonnes. Vous comprenez, mon cher ami? C'est le problème de sol pour parler de rendement.
Mmh. La rentabilité, comme il a dit.
C'est ça. Mmh. La rentabilité liée au rendement.
Alors, il a dit aussi, la récolte peut être utilisée comme semence.
Oui. Oui, mais là, c'est un autre aspect des choses. Et la semence, tout ce que vous faites là, tous les riz que vous faites, ce n'est pas de la semence. Ça, nous appelons ça, c'est du paddy. C'est le paddy. La semence, il y a des services appropriés pour mettre en circulation la semence. C'est comme je vous ai dit, c'est l'ANSEM. Nous produisons, et en plus de ça, pour avoir une semence, il faut avoir des champs semenciers. Et on appelle les spécialistes, les agronomes que nous sommes, les spécialistes, les ingénieurs. Nous venons, nous faisons des champs sémenciers. Mmh. Et nous vous offrons la semence. Même les paysans qui nous encadrons ici, ce ne sont pas eux qui produisent de la semence. C'est nous qui produisons et nous leur donnons. On donne la semence aux paysans et nous suivons pour voir s'ils ont respecté les conditions. Bon, tout ce que vous produisez
mais
là-bas...
Mais lui, à Kisangani, par exemple, oui. il peut contacter... Vous avez un service là-bas?
À Kisangani, il y a toute une station à Kisangani sur place en ville là-bas, mais je ne sais pas si ça continue à évoluer. Oui. Mais même si ça ne continue pas à évoluer, il y a des ingénieurs agronomes. Et Kisangani... Kisangani est en train de former beaucoup d'ingénieurs.
Oui.
Il y a l'IFA et il y a Bengamisa qui continue à former.
Mmh.
Et de là, peut-être, il y a même l'INERA. Voilà, il y a l'INERA sur place. Mmh. L'INERA s'occupe aussi de ces gens de travail. Mmh. L'INERA peut leur donner des informations sur ça et surtout leur fournir des semences.
Voilà, il a parlé aussi des maladies qui peuvent attaquer.
Généralement, nous avons, à ma connaissance, à ce que nous sachions pour le moment, nous avons deux maladies qui embêtent. C'est c'est un nom scientifique.
Oui.
Et puis nous avons ce que je venais de dire ici il y a une maladie que j'ai citée tout de suite là-bas, comme je ne suis pas tellement spécialiste en maladie.
Mmh.
Il y a une maladie que j'ai citée, je pense que vous l'avez notée là-bas.
Oui, elle se manifeste comment?
C'est de graines, il y a des taches. Il y a des taches sur des graines et il y a des taches aussi sur les feuilles. Hein?
Mmh.
C'est cette maladie-là, c'est une des maladies virales. Hein? Et pour les traiter, il faut avoir de produits appropriés.
Mmh. Hein,
appropriés. Mmh. Soit c'est dans la pépinière où on va mettre les fongicides, ou alors quand c'est par exemple pour le cas de la culture irriguée, et là il faut jouer avec l'eau. Par exemple pour la variété de chinois là dont je parlais, il faut jouer avec l'eau. Hein? Tantôt vous faites entrer l'eau, tantôt vous diminuez l'eau, hein? Parce qu'il y a des périodes, l'eau ne reste pas en permanence dans le champ. Il y a des périodes et à une période la culture demande de l'eau. À une autre période, la culture demande qu'on fasse sortir un peu d'eau.
Mmh.
Et surtout quand on veut épandre de l'engrais. On ne peut pas épandre de l'engrais pendant qu'il y a beaucoup d'eau. On fait sortir de l'eau, on garde une petite lame, hein, et on épand les engrais, on ferme le champ pour que l'eau ne puisse pas couler. Parce que si l'eau coule, elle va amener, plutôt parce que c'est de l'eau dont on parle, elle va amener toute la fertilité en dehors du champ.
Voilà, nous avons deux auditeurs en ligne, Benjamin depuis Siro et Mathieu à Kinshasa. Benjamin, bonjour.
Merci, bonjour, bonjour, les journalistes ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Oui, on vous écoute.
Oui, ça va, je voudrais poser une question à monsieur le notre invité. Bon, concernant le riz blanc, tu as des usines du riz. Parfois, je trouve qu'il y a des riz rouges. Aussi, qu'est-ce qui fait que ce riz là soit rouge? Et deuxièmement, je voudrais, si quelqu'un veut garder, qui a fait qu'il la ferme ce riz là, qu'est-ce qu'il peut faire et à quel endroit il peut garder?
Oui, Benjamin, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour... là, on n'arrive pas à vous capter à 5 sur 5. Vous pouvez répondre à la question.
Ça va. La première question, c'était de savoir, parfois, on part dans des piscines, là où on est une série, on trouve des riz rouges aussi. Les riz là sont un peu...
Oui, deuxième question. Moi,
Si quelqu'un veut garder de la série et qu'il continue à cultiver ses riz, à quel degré qu'il peut garder ça, ou à quel endroit?
Voilà, merci. Mathieu est en ligne depuis Kinshasa, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste. Bon, ma question est la suivante. Le riz qu'on produit ici à Kinshasa ou dans la République démocratique du Congo est souvent un peu jaunâtre. Comment est-ce qu'on peut produire du riz blanc? C'est question de la variété de, c'est question de l'usinage.
Merci beaucoup. Donc,
ma deuxième question, si vous pouvez demander à votre invité si elle ne peut pas organiser des séances de formation pour les agriculteurs. Ça serait une très bonne chose.
Merci, Mathieu.
Même si c'est payable. Hein.
Monsieur le journaliste, si vous pouvez m'aider un peu à me dire toutes ces trois ou deux questions qu'il a posées.
Oui, Benjamin a dit, depuis Siro, il dit, il remarque parfois lorsqu'il va dans les magasins de stockage, le riz, un riz qui a la couleur rouge, qu'est-ce qui explique cela et à quel degré, quelle température il faut garder le riz?
Je commence d'abord par la dernière question. La température, c'est la température ambiante, la température normale. Et cette température-là est connue de tout le monde ici. Il ne faut pas mettre là où c'est trop chaud. Vraiment la température ambiante. Et la deuxième question, pour la couleur de riz, là.
Le riz rouge.
Je parlais précédemment que ce sont des anomalies liées à certaines maladies comme la cercosporiose, dont je vais prononcer d'abord à un moment là. Et il y a aussi la furcularyose. La furcularyose, c'est quand il y a des taches noires sur le feuille et des taches noires sur le grain, donc sur le padis là. Et quand on récolte, si elle est prononcée, vous pouvez avoir certaines décolorations certaines colorations plutôt sur le riz.
Oui.
Et la couleur jaune là, ce sont des maladies, ce sont des anomalies. Des anomalies constatées depuis le champ. Mais généralement, le riz a une couleur blanche.
Donc, sa question était la température pour garder cette couleur.
La température ambiante.
Ambiante. Oui. Voilà. Et puis Mathieu dit, il a remarqué qu'il y a du riz jaunâtre avec la couleur jaunâtre. Donc tout dépend, tout est parti de la culture. Donc,
depuis
les champs,
depuis
il y a la maladie qui est attaquée. Alors il demandait aussi si c'est possible d'organiser des séances de formation des agriculteurs, même si c'est payant. Et il est prêt pour souscrire.
Et s'il veut que cela se fasse, qu'il vienne au PNR sur place. Nous avons des services organisés pour ça. Ils peuvent être recyclés.
Ils peuvent être recyclés. Mais pour ceux-là qui ne sont pas à Kinshasa, comment peuvent-ils vous contacter? Il y a peut-être un numéro de téléphone par lequel ils peuvent vous joindre pour avoir des conseils.
Si.
Oui.
J'ai des numéros d'abord Zen.
Oui.
09. 98.
98.
33.
33.
90.
90.
67.
67.
Voilà. Il y a aussi Tigo, 089, 93,
26,
284.
Voilà. Le premier numéro, 09, 98, 33, 90, 67. Deuxième numéro, 089, 93, 26, 284. Dieudonné Mbo, ingénieur agronome, je vous remercie.
Merci beaucoup.